Donc la première mention dans la Bible du baptême d'eau apparaît dans les évangiles sous la forme du baptême de Jean, Jean le baptiseur.
Précurseur du Christ. Je n'ai pas mis comme il faut. Ah, d'accord.
Jean le baptiseur, précurseur du Christ, qui baptisait les Juifs qui reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs. On trouve ça en Matthieu 3,
les versets 1 à 12. J'ai sélectionné quelques versets de ce passage. Donc en Matthieu 3, on trouve « En ce temps-là parut Jean-Baptiste ». Il ne s'appelait pas encore Baptiste, hein, mais bon. « Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez » ou « Repentez-vous » car le royaume des cieux est proche. »
On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain,
en reconnaissant publiquement leurs péchés. Au verset 11, « Moi, je vous baptise dans l'eau,
en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi,
il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. » Ce geste d'enlever les sandales, dans l'Antiquité, c'était le geste du serviteur pour inviter son maître à se reposer. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Et au verset 12, un verset un peu surprenant, il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Le fait de s'immerger complètement dans l'eau symbolisait le lavage de ses péchés dont le pécheur reconnaissait le besoin. Mais Jean-Baptiste déclarait à ceux qui venaient ainsi se faire baptiser qu'un autre allait venir après lui qui baptiserait dans le Saint-Esprit et le feu. Hein, c'était le verset 11.
Cet autre,
le Fils de Dieu. Le baptême dans l'Esprit signifie la seule véritable régénération ou lavage que Dieu pouvait opérer pour un homme ou une femme. Je peux parler sans micro, peut-être c'est plus simple, non? Non? Non. Ah voilà, ça marche. Et cette fois, ça pète pas.
Bravo.
Bravo. Alors cet autre qui devait venir, dont a parlé Jean-Baptiste, eh bien c'était Jésus. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Le baptême dans l'Esprit, que lui allait opérer, signifie la seule véritable régénération ou lavage que Dieu pouvait opérer pour un homme ou une femme. Une régénération spirituelle, intime, dont le baptême d'eau n'est que le témoignage extérieur. Et Jean-Baptiste a proclamé qu'il annonçait celui qui baptiserait dans le Saint-Esprit et le feu. Alors pourquoi le feu? Au verset 12, il utilise l'image d'un cultivateur qui vient de battre son blé, qui sépare le grain de la balle et brûle cette dernière au feu. Et il parle même d'un feu qui ne s'éteindra jamais. Le blé, c'est le croyant, que Dieu recueille dans ses greniers célestes. Et la balle, ce sont ceux qui sont restés incrédules et qui sont voués à l'enfer pour prix de leur incrédulité. Le feu qui ne s'éteint pas dans la Bible, c'est toujours le symbole de l'enfer. Jean, l'évangéliste, non plus le baptiste, explique le baptême du Saint-Esprit dans son dialogue avec un docteur de la loi de Dieu de son époque. En Jean 3, versets 1 à 16, ce docteur de la loi de Moïse s'appelait Nicodème. Jésus lui dit que personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. De façon bien compréhensible, Nicodème ne comprend pas comment un homme pourrait naître une seconde fois. Alors Jésus précise que cette nouvelle naissance est une naissance spirituelle et que seul Dieu, le Saint-Esprit, peut opérer cette naissance. Et dans la suite de ce récit, Jésus va rappeler un épisode de la traversée du désert par les Israélites lors de leur exode vers la terre promise. C'est ce qu'on voit au verset 14. Cette histoire est racontée en Nombre 21, versets 8 à 9. Donc vous voyez donc ce qu'a dit Jésus là. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau un serpent de bronze. De la même manière, Jésus explique à Nicodème, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Et ça a été l'occasion de Jésus, ou peut-être de Jean, on ne sait pas, le texte est tellement imbriqué, de rajouter ce merveilleux verset 16 que tous les enfants apprennent à l'école du dimanche. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alors pourquoi cette allusion de Jésus à cet épisode de l'exode du peuple juif ? En effet, les Israélites se rebellaient sans arrêt contre l'autorité de Moïse, leur conducteur suscité par Dieu. Alors Dieu leur a envoyé des serpents qui ont fait beaucoup de victimes parmi le peuple. Il a alors enseigné à Moïse un moyen de salut, fabriquer un serpent en bronze et le placer sur une perche pour qu'il puisse être vu de tout le monde. Tout Israélite qui venait d'être mordu par un serpent avait la vie sauve si seulement il regardait avec foi le serpent de bronze. C'était donc une image de Jésus qui serait élevé de la terre sur une croix des siècles plus tard. Tout pécheur repentant qui regarde avec foi à lui pour être pardonné de la maladie mortelle du péché reçoit la guérison, c'est-à-dire la vie éternelle. Et donc Jean a ajouté ce fameux commentaire. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. L'apôtre Paul va plus loin dans la compréhension profonde du baptême en Romains 6, versets 1 à 14. Il explique que si nous avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Au verset 3. Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, on en a beaucoup parlé au début de ce culte. Et Paul continue, « Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vie est totalement liée à celle de Christ lorsque nous avons mis notre foi en lui. De ce fait, par le baptême, nous sommes symboliquement morts avec lui à notre ancienne vie de pécheur et nous ressuscitons avec lui pour une vie nouvelle conduite par le Saint-Esprit qui vit désormais en nous. Alors comme l'a dit Anne tout à l'heure, bien sûr nous restons des pécheurs. et cela sera le cas jusqu'à notre mort physique. Mais, différence fondamentale, le péché ne règne plus sur nous. Le Saint-Esprit nous donne la force d'y résister. Et si malgré tout nous tombons, et bien sûr ça arrive, confessant aussitôt notre péché, nous sommes assurés de son pardon immédiat et de la pleine restauration de notre communion avec Dieu. On raconte que l'empereur romain Constantin, qui donc s'était converti au christianisme vers la fin de sa vie, s'est fait baptiser sur son lit de mort, pour être sûr qu'il ne pécherait plus avant de mourir. Bon, bien sûr, c'était une compréhension erronée du baptême, mais bon, voilà. En tout cas, il avait une conscience du péché, en tout cas. L'apôtre Pierre décrit un autre aspect encore du baptême d'eau dans sa première épître, chapitre 3. Pierre rappelle le jugement de Dieu qu'a été le déluge sur une terre corrompue par le péché et le fait qu'il a sauvé un juste et sa famille, Noé donc et sa famille. En 1 Pierre 3, verset 20, il écrit « Alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque de Noé, à l'époque où Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême, dit Pierre. » Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Voilà, le baptême, c'est un engagement envers Dieu, avec une conscience pure. Et Pierre ajoute, « Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. » Après l'œuvre de la croix et sa résurrection, Christ a reçu toute autorité de la part du Père au ciel comme sur la terre. C'est ce que signifie siéger à la droite de Dieu. Il le dit d'ailleurs lui-même à ses disciples en Matthieu 28, verset 18. Ça marche pas. Hop, oula, j'étais trop loin. Si, c'est ça. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Se faire baptiser, c'est donc un premier acte d'obéissance à ce que le Seigneur nous prescrit, qui sera suivi, par la grâce de Dieu, de beaucoup d'autres dans notre carrière chrétienne. Jésus a ajouté donc, et voici, « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette autorité de Christ sur toute la création comprend son autorité sur les puissances célestes, c'est-à-dire angéliques, parmi lesquelles Satan et ses anges, les démons. De ce fait, Satan, qui nous pousse à pécher, a perdu son pouvoir sur nous. Notre vie étant désormais indissolublement liée à celle de Christ, nous bénéficions de sa protection et de sa puissance pour vaincre la tentation du péché. L'apôtre Paul précise enfin que le baptême d'eau nous introduit dans une nouvelle sphère, l'Église. Il parle de l'Église comme du corps de Christ sur la terre. En 1 Corinthiens 12, verset 13, il écrit « Nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. » Et ce seul corps, c'est l'Église universelle. Ainsi, le baptême d'eau, témoignage extérieur et public du baptême de l'Esprit, introduit le croyant dans le corps de Christ, l'Église universelle sur la terre. Nous voyons donc que le baptême d'eau chrétien est le témoignage extérieur d'un baptême secret opéré par le Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui se repent de ses péchés et met sa confiance en Jésus-Christ. En se soumettant à ce rite devant ses frères et sœurs de l'Église, le baptisé s'engage à servir son Sauveur et Seigneur de tout son cœur et pendant tout le temps qu'il lui reste à vivre. L'Église, de son côté, s'engage à prier pour lui, à l'instruire dans la parole de Dieu, c'est-à-dire de faire de lui un disciple de Jésus-Christ et à l'entourer de son amour fraternel. Alors nous allons maintenant entendre le témoignage de Yves, puis nous le baptiserons. Et enfin, nous aurons un moment où l'Église pourra prier pour lui et chanter en reconnaissance à Dieu pour le salut que par sa grâce, Yves a choisi pour l'éternité.